Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde, oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde, unie main dans la main. Chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. C'est Henri Gara et puis Georges Brassens, ensuite, qui ont chanté cette chanson. Et ses paroles introduisent parfaitement notre dossier consacré donc cet après-midi à l'amitié. Que dit la science des liens d'amitié? Comment nos amis nous influencent et notre bonheur est-il proportionnel au nombre d'amis que nous avons? Autant de questions que nous allons aborder donc dans cette émission. Avec vos questions et vos témoignages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Pics de pollution et air que nous respirons sont à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, la circulation est alternée encore à Paris aujourd'hui. Vendredi, ce sera Lyon. On met le nez dans le pot d'échappement aujourd'hui pour voir quelles sont les mesures anti-pollution qui sont efficaces avec la physicienne de l'atmosphère Isabelle Coll.
On va quand même mettre un masque pour ça. Cette émission est réalisée par Stéphanie Texier. Elle a été préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et c'est donc l'amitié qui sera au cœur de notre dossier dans quelques instants avec mes invités. En studio avec moi, Lolita Rubens. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en psychologie sociale. Et puis en duplex de France Bleu Azur à Nice, le psychanalyste Saverio Tomasella. Bonjour à vous.
Bonjour.
Lolita Rubens, avoir des amis, c'est important pour être épanouie dans la vie?
Oui, tout à fait. La question du bonheur et de l'amitié a été maintes fois étudiée. Et en effet, les amis, c'est nécessaire. Peut-être pas suffisant, mais en tout cas nécessaire pour être heureux.
On verra s'il faut en avoir beaucoup pour être plus heureux. Saverio Tomasella, l'amitié, c'est important à tous les âges. Et en particulier, on le verra, dans la construction des enfants.
Oui, l'amitié est importante dès le début de la vie, donc dès l'enfance.
Eh bien, on se retrouve dans un instant pour en discuter avec les messages donc, des auditeurs franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Paris et la vallée du Rhône qui baignent dans le gris et la qualité de l'air qui est à la une de la science aujourd'hui.
Quand il fait beau à Paris, il finit par faire gris. L'absence de vent pendant plusieurs jours favorise la pollution de l'air en empêchant les particules fines de se disperser. Conséquence, une dose de polluant qui peut être deux ou trois fois supérieure à un jour normal à Paris et en proche banlieue.
Et l'indice de pollution en Île-de-France qui est passé de 10 sur 10 hier à 9 sur 10 aujourd'hui, et ce malgré la circulation alternée en place depuis hier, des chiffres qui correspondent à une pollution très importante, aux particules fines ainsi qu'au monoxyde et dioxyde d'azote dangereux pour la santé. Même chose pour Lyon et Villeurbanne qui passeront donc vendredi en circulation alternée. Pour comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère de la capitale et ailleurs en France, eh bien nous recevons Isabelle Coll. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, laboratoire CNRS, Université Paris-Escréteil et Université Paris-Diderot. Tout d'abord, une question pratique. Pourquoi est-ce que ce sont les journées ensoleillées en hiver qui sont les plus sujettes aux pics de pollution?
Alors, il faut comprendre deux choses. D'abord, la concentration des polluants qu'on a dans notre atmosphère, c'est une quantité de polluants qui est émise et qui est émise dans un certain volume. Et donc, il faut prendre à la fois les deux éléments pour bien comprendre ces phénomènes de pollution. Habituellement, la pollution et les polluants émis sont balayés par le vent horizontal, un peu loin de la ville, à une vitesse assez importante. Et puis, le sol étant chauffé par le rayonnement solaire, eh bien, l'air chauffé par le sol s'élève, crée des tourbillons qui envoient les polluants aussi en altitude. Or, quand nous sommes dans des situations anticycloniques, eh bien, c'est un air déjà qui vient de l'Est, qui est sibérien ou polaire, et donc il fait d'abord froid. Le vent est faible puisque nous sommes en conditions anticycloniques, et donc nous avons tous les phénomènes qui vont favoriser la rétention des polluants sur site. Imaginons, par exemple, vous êtes dans une pièce, vous avez une cigarette allumée, vous avez ouvert toutes les fenêtres et puis vous avez un plafond assez haut, finalement, la cigarette se dilue un peu de partout. Là, vous avez fermé toutes vos fenêtres, la fumée de votre cigarette est imperturbable, et maintenant vous mettez un couvercle à 20 cm au-dessus de votre cigarette et vous mettez le nez dedans. Eh bien, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui.
C'est affreux votre description, mais c'est très pratique. Alors, pour comprendre ce qui se passe.
J'ajouterais qu'en période de froid, on allume aussi les chauffages et tous les chauffages qui sont liés à la combustion, en particulier la combustion de la biomasse, émettent beaucoup de particules. Et donc, on baigne dans un environnement qui n'est pas renouvelé, ou même ce qui se passe en banlieue ou en proche ruralité, eh bien, peut venir influencer la ville.
Alors, deuxième question pratique, pourquoi malgré la circulation alternée, l'indice de pollution est encore à 9 sur 10 selon le barème Air Paris, après deux jours de circulation alternée?
Alors peut-être il faut poser la question dans l'autre sens. À combien serions-nous si on n'avait pas fait la circulation alternée ? En fait, la circulation alternée, elle permet de limiter l'émission que l'on a. Elle permet de limiter la quantité de polluants que l'on va avoir dans notre proximité. Mais elle ne permet pas de ventiler ce qui existe déjà. Et on ne peut pas non plus réduire les émissions à zéro. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est minimiser notre impact sur l'environnement. Mais on a forcément un bruit de fond et forcément une activité humaine existante.
Oui, d'autant que circulation alternée ne signifie pas moitié moins de voitures. Hein.
C'est ça. Alors on a des retours sur expérience qui sont de l'ordre de 20%.
À peine. Hein,
voilà. Alors. Il faut quand même voir que même si finalement les chiffres de réduction des concentrations sont peut-être plus faibles que ce qu'on espérait, 50% de réduction du trafic, c'est pas déjà 50% de réduction des concentrations. En fait, on a déjà une diminution moyenne des polluants, des concentrations de polluants qui est mesurable. Et ça, c'est bien. Parce que si c'est mesurable, eh bien c'est significatif sur les asthmes. On sait par exemple qu'une augmentation de 10 microgrammes du NO2, donc le dioxyde d'azote qui est émis par les combustions et notamment les combustions des voitures, plus 10 microgrammes par mètre cube, c'est 1% de mortalité toute cause, immédiatement. Ça veut dire qu'on exacerbe la sensibilité des gens qui sont déjà fragiles.
Alors, on parlait des barèmes de Air Paris tout à l'heure, l'association qui mesure la qualité de l'air. On sait qu'ils sont beaucoup plus faibles que les recommandations de l'OMS. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les valeurs guides de l'OMS en France pour mesurer la qualité de l'air ?
Alors, déjà, il faut se fixer des limites qui soient raisonnables et que l'on puisse respecter. Si finalement, on se trouve tous dans une situation où on n'arrive pas à respecter les valeurs de l'OMS, eh bien, on va tous avoir des amendes et finalement, on va complètement démotiver les gens. Il faut se fixer des barrières qui soient progressives, que l'on puisse atteindre. Et puis, vous voyez bien, l'historique de nos réglementations est à la baisse régulièrement. La pollution est un phénomène qui n'a pas de seuil, c'est-à-dire qu'on observe des effets sanitaires, même à des concentrations très faibles de polluants. Donc si on voulait être extrêmement rigoureux, on dirait qu'il faut zéro polluant. Ça n'est pas raisonnable et ça n'est pas accessible.
Oui, apparemment, si les normes étaient calées sur celles de l'OMS, la qualité de l'air serait mauvaise 90% du temps. Donc c'est un petit peu anxiogène, si peut-être pour les habitants des villes.
Oui, c'est tout à fait anxiogène et c'est pour ça aussi qu'on essaye de fixer des limites progressives et tout en se fixant des objectifs de qualité. Quand on regarde la réglementation française, on a non seulement des valeurs réglementaires mais des objectifs de qualité qui nous permettent de prévoir une étape plus loin ce qu'il faudra faire pour bientôt encore améliorer la qualité de l'air. On a cet objectif en vue qui est de respecter un jour la valeur seuil de l'OMS des particules de moins de 2 microns 5, qui est de 10 microgrammes. Actuellement, on est à 25 en valeur réglementaire. Et si on le respecte, c'est 6 mois de vie gagnés pour Paris et la proche banlieue pour tous les habitants.
Il y a plusieurs mesures qui sont en cours sur le long terme dans la capitale pour tenter d'améliorer la qualité de l'air. Par exemple, le renouvellement du parc automobile avec l'interdiction progressive des véhicules de moins de 20 ans. Est-ce que vous attendez des améliorations significatives avec cette mesure ?
Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, interdire l'accès de Paris à des véhicules qui ont plus de 20 ans va simplement couper du trafic une toute petite fraction des véhicules. Donc, ça ne va pas être dans un premier temps visible ni sur la congestion, qui est un facteur d'exposition aggravée, ni sur vraiment les émissions totales. Mais on pourra réduire la proximité entre un enfant, un piéton et une voiture extrêmement polluante. Parce que c'est ça le problème de la pollution automobile en ville, c'est la proximité entre les gens qui sont exposés et les sources. On n'a pas ça avec les industries, on n'a pas ça avec les autres sources.
Isabelle Coll, vous venez de dire on pourrait gagner 6 mois de vie. C'est quand même hallucinant parce que les enjeux de santé publique sont énormes et les moyens qu'on se donne sont absolument pas à la hauteur, non ?
Alors, je saurais pas dire pour les moyens, c'est très difficile. En fait, il faut arriver à trouver des solutions qui soient techniquement faisables, qui soient socialement acceptables. L'acceptabilité des mesures de réduction de la pollution, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est responsable, finalement, la non-acceptabilité est responsable de l'échec de beaucoup de politiques environnementales. Il faut qu'on arrive à impulser un mouvement qui soit citoyen pour que les comportements changent, pour qu'on choisisse des modes de déplacement plus doux. Finalement, il n'y a pas forcément besoin d'augmenter les moyens, mais peut-être la sensibilisation du public. Après, il y a toute la partie technologique qui, oui, doit nous amener beaucoup moins de pollution.
Une remarque d'Hélène sur Internet. La majorité des automobilistes alimentent les bouchons de la région parisienne et vont finalement s'asseoir devant un ordinateur. Est-ce que la solution, ce ne serait pas le télétravail ?
Parmi les solutions
parmi
possibles,
les solutions effectivement. Proposées.
Oui, alors il y a pour moi deux échelles de modification des comportements pour qu'on arrive à avoir une meilleure qualité de l'air. Il y a d'abord l'échelle à long terme, 20, 30 ans, où on repense la ville, où le Grand Paris a ses principaux enjeux de qualité de vie et notamment de qualité environnementale. Donc on repense la mixité urbaine, avoir un travail à côté des zones d'habitation, avoir des zones commerciales à l'intérieur des zones d'habitation pour qu'on puisse aller à son travail, faire ses courses, déposer ses enfants sans jamais utiliser la voiture. Et effectivement, alors on a du télétravail, on a aussi maintenant, ça se fait beaucoup dans les pays du Nord, des immeubles qui sont complètement équipés pour que les gens puissent venir travailler un jour ou deux par semaine à proximité de leur logement. Donc ça, c'est une solution qui doit se construire. Puis à court terme, il y a d'autres modifications, peut-être de la structure urbaine, plus de transports en commun dans les banlieues pour qu'on puisse aller plus loin que la commune limitrophe quand on veut travailler. Quand on fait des modifications, je vous l'assure, sur les transports en commun, demain, les gens ne vont pas s'en apercevoir après-demain. Ils vont s'en apercevoir tout de suite.
Dernière question très vite, Axel.
Oui, quand on est citadin et pas automobiliste, est-ce qu'il y a un conseil, une bonne pratique à adopter pour éviter les problèmes de santé ?
Alors déjà, j'ai croisé sur ma route en venant quelqu'un qui faisait du jogging sur les bords de Seine. Je pense que ce n'est pas le jour. Hein, donc il y a effectivement évité...
Même dans les parcs de la capitale ?
Je pense que c'est pas le jour, effectivement. Même si, alors, on sait que les concentrations diminuent sur 300-500 mètres, en gros. Donc, quand on est à 300-500 mètres des routes, eh bien, on a une concentration qui est fortement diminuée. Mais est-ce qu'on est déjà à 300 ou 500 mètres d'une route quand on est dans Paris ?
C'est une petite question
intéressée. Voilà. J'ai pas beaucoup parlé peut-être de la proximité routière, qui est un phénomène extrêmement problématique
très
quand
vite,
on
alors.
Est dans des rues à proximité de voitures qui sont en stationnement parce qu'il y a congestion, parce qu'il y a des feux rouges, parce que les immeubles sont hauts et que les polluants ne s'évacuent pas, on a des concentrations 2-3 fois plus fortes que les moyennes. Toutes les valeurs moyennes qui sont données sur le territoire francilien, ce sont des valeurs pour l'atmosphère de fond. Et là, l'exposition réelle des gens, elle est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que le trafic alterné pratique est facile, parce qu'il réduit ce temps de rencontre entre un polluant et un piéton.
Merci Isabelle Coll pour vos précisions très claires au sujet donc de cette qualité de l'air. Et puis donc on l'apprenait aujourd'hui, Lyon et Villeurbanne seront également en circulation alternée.
Vendredi.
Merci beaucoup à tous les deux, Axel.
Merci.
À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, nourrir les oiseaux en accrochant des petits sacs de graines et de graisse, vous l'avez peut-être fait dans les arbres. Eh bien, ça n'est pas toujours une bonne idée. Des chercheurs américains ont étudié l'impact de cette nourriture humaine sur des populations de rouge-gorge en période de reproduction. Ils montrent que la nourriture bienvenue dans un premier temps attire rapidement les prédateurs du petit passereau et que beaucoup de nids sont malheureusement ravagés par les corbeaux et les corneilles qui se nourrissent des œufs. L'impact des bonnes intentions humaines est donc parfois négatif pour l'auteur de cette publication qui rappelle que toute intervention sur la nature entraîne des conséquences insoupçonnées et difficilement mesurables. La déforestation en Amazonie qui reprend de plus belle après 8 ans de baisse constante, et bien la surface de forêt amazonienne brésilienne défrichée illégalement augmente fortement cette année après avoir atteint un seuil minimum de 4000 km² détruits en 2012. Les destructions ont quasiment doublé cette année pour atteindre les 7000 km². Les auteurs de cette mesure expliquent dans le journal Nature que le pouvoir brésilien, occupé par les problèmes de corruption au plus haut niveau de l'État, détourne de plus en plus son attention et son argent de la cause environnementale. Et puis pour terminer, nous vous présentons la vidéo d'un robot acrobate, Salto c'est son nom, qui est capable d'effectuer des successions de sauts avec rotation en s'appuyant sur les murs, et pourtant il n'a qu'une jambe, mise au point en s'inspirant du Galago du Sénégal, un petit primate d'Afrique. Il est capable d'enchaîner les sauts dans un temps record. La vidéo de ses exploits est à voir en ce moment même sur la page Facebook de la Tête au Carré. The Excitements est juste après notre dossier consacré à l'amitié. Better.
head of my life. I don't wanna thank you for setting me free. Now I'm happier than I used to be.
Ton assiette, c'est d'avoir un an de plus.
Non, non, ce matin, j'étais aux obsèques de Patrick Bourgoin, tu sais.
Tu pouvais pas le blairer, pourquoi t'y allais?
Une petite affaire à régler. Vous savez combien on était à l'église en comptant la veuve? On était 7.
Je sais pas si ça va te consoler, mais on sera pas plus nombreux à ton enterrement.
Comment ça?
À ton enterrement, il y aura personne.
Mais tu plaisantes?
Non.
Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi il dit ça?
Sans doute parce que t'as pas d'amis.
Mais comment ça, j'ai pas d'amis?
Bah non. Comment tu ferais? Avec les objets qui comptent pour toi.
Ah, ça va, j'ai compris. Vous me faites tous marcher.
Non, c'est vrai, Catherine a raison. Tu n'as pas d'amis.
Mais enfin, tu veux voir mon agenda? Vous voulez voir mon agenda? J'ai 15 rendez-vous par jour. J'ai pas un déjeuner libre avant 3 semaines.
On ne parle pas de relations, de connaissances, on parle d'amis. De vrais amis sur lesquels on peut compter.
Tu veux dire un meilleur ami, par exemple?
Par exemple. Tiens, c'est qui ton meilleur ami?
Mais j'en ai plein. Pour commencer autour de cette table.
Un meilleur ami, c'est pas toute une bande. Alors? Qui?
Mais tu le connais pas forcément, et puis c'est personnel, je me balade pas avec mon meilleur ami en bandoulière.
D'accord, je le connais pas, mais c'est qui?
Mais c'est pénible à la fin, cet interrogatoire.
Il existe au moins, ton meilleur ami?
Mais bien sûr qu'il existe.
Moi, je dirais qu'il n'existe pas.
C'est dur cet extrait, mon meilleur ami de Patrice Lecomte avec la voix de Daniel Auteuil que vous avez reconnu et notre dossier consacré à l'amitié pour comprendre si avoir un bon copain c'est ce qu'il y a de meilleur au monde justement. Et pour en parler, je suis avec Lolita Rubens, vous êtes chercheuse en psychologie sociale, maîtresse de conférences à l'université Paris-Est Créteil et vous avez publié aux éditions Mardaga 60 questions étonnantes sur l'amitié. Et puis Saverio Tomasella, vous êtes psychanalyste, docteur en psychopathologie, auteur de plusieurs ouvrages dont les relations fusionnelle sortie en janvier aux éditions Erol. Et vous êtes en duplex de Nice avec nous. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages, toutes les questions sur le site de l'émission franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Lolita Rubens, une réaction d'abord sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Aussi, il y a beaucoup de sujets hein, dont on pourrait parler.
Oui.
On voit finalement le vide dans lequel est plongé cet homme. Hein, très entouré mais sans amis au fond. Hein.
Ouais, et aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est la désirabilité sociale aussi, avoir des amis. On sent que ne pas avoir d'amis, c'est pas non plus très bien vu.
Ouais.
Et puis il y a aussi effectivement cette idée d'être à un enterrement et est-ce que les amis, du coup, le soutien des amis, notamment sur les années les plus avancées, et effectivement le soutien qu'on peut avoir de ses amis, même pour vivre plus longtemps.
Le bilan d'une vie. Hein. Saverio Tomasella, est-ce que vous voulez réagir à cet extrait de mon meilleur ami?
Oui, mais écoutez, les personnes qui lui parlaient n'étaient pas du tout amicales et je ne pense pas que ce soit aux autres décider pour soi qui sont nos amis et qui ne sont pas nos amis.
Ouais. Est-ce que la science a des choses précises à nous dire aujourd'hui sur l'amitié, Saverio Tomasella?
Oui, la recherche a beaucoup de choses à dire sur l'amitié, sur son importance, sur le fait qu'elle est fondamentale dans la vie humaine et puis aussi dans l'équilibre de chacun et chacune d'entre nous.
Donc il y a une bonne littérature aujourd'hui? On peut trouver des études sérieuses sur le sujet?
Du point de vue scientifique, il y a un début de littérature. Du point de vue de la vulgarisation, pour l'instant, il y a peu de livres sur l'amitié et c'est bienvenu qu'un livre puisse paraître Et donc, merci à Lolita.
Voilà, Lolita Rubens avec 60 questions étonnantes sur l'amitié et les réponses qui apporte justement la science. Alors, vous avez justement compilé, vous avez fait un gros travail hein, sur les études qui existent en triant le bon grain de livret.
Oui, alors c'est surtout que j'ai effectivement, pour répondre à la question aussi précédente, j'ai pas eu tellement de mal à trouver, puisque donc le principe c'est d'avoir une question, une étude. Donc là, il y a 60 ouais. études différentes. En sachant qu'on avait une contrainte, c'est qu'il fallait que ce soit des études récentes, donc après 2003. Mmh. Et j'ai pas eu de mal à trouver les 60 études. Donc je pense qu'en effet, il y a largement de quoi faire si on s'intéresse à la question de l'amitié en sciences. Mais du point de vue de la vulgarisation, c'est vrai qu'on a moins, on a moins ouais. accès à ces recherches.
Donc c'est à votre tour maintenant, hein, finalement, d'aller expliquer ce qui sort. Et d'ailleurs, à la fin du livre, vous expliquez à quel point il faut faire attention aussi dans le tri des informations et de la littérature scientifique, avec parfois des biais aussi hein, qui sont importants.
Ouais, tout à fait. C'est un parti pris de la collection qui donc est la collection In Psycho Veritas, qui donc a pour vocation de pouvoir vulgariser les recherches en psychologie, les recherches scientifiques en psychologie. Donc on a fait le choix de donner une réponse par question, mmh. alors que bien évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'idée, c'était d'avoir des questions étonnantes qui intéressent le public, mais c'est certain que la science est plus complexe et donner une réponse à une question, c'est souvent un peu simplifié.
Saverio Tomasella, vous, ce sont les relations personnelles qui vous intéressent en particulier. Et comment se situent les psychanalystes justement sur cette question de l'amitié ?
Alors c'est une très bonne question parce qu'à mon avis, la psychanalyse est très en retard sur la question de l'amitié et ce serait bien que mes collègues et moi, nous nous penchions un peu plus sur cette question, tout simplement parce que la psychanalyse s'est beaucoup intéressée aux difficultés des patients que nous recevons. Et aussi beaucoup à l'amour, mais pas encore assez à l'amitié.
Ouais. Et dans d'autres cultures, on s'intéresse plus à l'amitié, justement ?
Oui, je pense que oui. Je pense que les cultures latines, France, Italie, Espagne, sont des cultures très sentimentales, très romantiques, qui exaltent la passion amoureuse, alors que d'autres cultures, les Allemands, les Nordiques, les Anglo-Saxons, et peut-être dans d'autres régions du monde que je ne connais pas, sont beaucoup plus centrés sur la solidarité, sur la relation à l'autre, sur l'amitié.
Lolita Rubens, l'amour vampirise tout justement dans les études.
Bah c'est vrai que c'est une thématique et certainement aussi que les gens peut-être ont envie de lire et qui du coup en effet donne lieu à beaucoup d'études. Mais l'amitié aussi et c'est vrai que justement quand je disais que les amis peuvent vivre plus longtemps, la recherche à laquelle je fais référence, qui est donc une des questions de l'ouvrage, nous dit que les amis finalement pour la longévité sont plus importants même que la famille et les personnes proches.
Sur l'espérance de vie, hein, soyons très concret dans ce que montrent ces études, avoir des amis favorise une plus grande espérance de vie.
Oui, tout à fait. C'était une étude en Australie avec des personnes âgées de plus de 70 ans qu'on a suivies sur 10 ans et ils ont effectivement regardé la mortalité chez ces personnes en regardant leurs relations sociales, notamment la famille, les enfants, les contacts, la fréquence des contacts et les amis. Et il s'est avéré que les amis avaient un effet bénéfique sur l'espérance de vie alors que la famille ou les enfants, beaucoup moins.
Oui. Est-ce que justement, dans vos consultations, Saverio Tomasella, vos patients vous parlent beaucoup de leurs relations amicales ?
Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, patients et patientes, quel que soit leur âge, passent beaucoup de temps à parler de leurs amitiés, de l'importance de l'amitié, et du souhait de développer des amitiés ou d'avoir de vrais amis. C'est vraiment quelque chose de très important, oui.
Donc vous sentez à quel point justement ces relations représentent un socle psychique aussi pour les personnes ?
Complètement, hein. C'est vraiment le socle psychique le plus fort qui puisse exister, puisque au-delà de l'amour, les amitiés peuvent durer alors que certaines relations amoureuses ne durent quelques années, mais pas forcément toute une vie. L'amitié va durer, mais aussi parce que notre ami nous accepte tel que nous sommes, ce qui n'est pas forcément le cas de la famille et d'autres proches.
Oui, c'est ce qui fait toute la différence, Lolita Rubin, ça aussi.
Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut être avec ses amis, certainement se confier aussi peut-être sur des éléments où on aurait peut-être plus de mal à se confier à sa famille. Et c'est vrai que du coup, les amis représentent vraiment un soutien très important pour les individus de manière générale.
Est-ce qu'on pourrait en donner une définition de l'amitié ? Parce qu'on est en train de parler déjà des études scientifiques, laisser comprendre que ça se mesure finalement, d'une certaine manière, l'amitié. Mais ça veut dire quoi alors ?
Alors justement, dans les études, donc là, il y en a plein dans l'ouvrage, et on a différentes façons de mesurer l'amitié, et donc différentes façons effectivement de considérer générer l'amitié. Donc dans certaines études, on demande aux gens de citer certains de leurs amis, et auquel cas on leur laisse toute la définition de l'amitié. Après, on peut considérer plus spécifiquement ce qu'on appelle des amitiés mutuelles, c'est-à-dire dans un groupe où on aurait tous les individus, demander aux gens de citer un ami à eux et de voir si cette personne les cite en retour. Puisqu'on a des amitiés qui peuvent être à sens unique, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui citeraient leur voisin comme ami, alors que le voisin ne les citerait pas du tout comme ami. Ouais. Et on se rend compte que ça peut avoir aussi des impacts différents. Est-ce que c'est des amitiés mutuelles, c'est-à-dire les deux personnes se considèrent comme des amis, et en général, ça rejoint avoir des centres d'intérêt communs, pouvoir passer du temps ensemble, discuter ensemble, se confier, ou est-ce qu'on considère des personnes comme étant nos amis, mais elles non?
Alors Saverio Tomasella, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que justement l'amitié doit être absolument dans les deux sens ou pas?
C'est très intéressant parce qu'il y a des personnes que nous croyons amies, ou nous imaginons que nous sommes leur amie ou qu'elles sont notre amie ou nos amies, et ce n'est pas le cas, mais finalement pour la personne intéressée, c'est le fait d'y croire, d'investir cette relation qui peut lui faire du bien. Donc c'est toute la part imaginaire de notre vie psychique. En revanche, c'est vrai que dans la réalité, l'idéal, ou en tout cas la meilleure configuration possible, c'est effectivement l'amitié réciproque, mutuelle, qui va dans les deux sens.
Oui, parce qu'il peut y avoir des conséquences désastreuses aussi à la non-réciprocité des relations amicales, Saverio Tomasella.
Oui, désastreuse dans le sens d'une grande désillusion, de fortes déceptions et effectivement de moments un peu d'effondrement si cette amitié-là avait une place très importante dans notre vie et que nous constatons qu'elle est illusoire.
Allez, on se retrouve dans un instant, c'est le dossier de l'émission. Les messages des auditeurs arrivent sur le site de La Tête au Carré.
Je vais ici et là jouer de mon piano dans des soirées au fil de l'eau. Qu'est-ce que la vie des gens sinon celle dont ils rêvaient enfant? Et moi j'ai toujours voulu devenir un ramasseur de souvenirs. J'effleure le blanc et le noir en attendant que vienne le soir ou une silhouette de hasard dans la pénombre de ce bar. Oublie la fadeur de ce jour pendu à mes notes de velours. J'ai mis des sons, des rires et des airs, ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clics et quelques bières. Je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères. Je suis parti voir les ours polaires, prêt pour le grand cabotage de rencontres en partage. Je veux voir les autres autrement, toucher leur vie, leurs sentiments. Et nous partirons vaille que vaille au souffle de ce que nous sommes, provoquer quelques entailles à l'idée qu'on se fait des hommes. Plus de peine ni d'histoire vaine, c'est décidé ce soir, putain, je quitte la plaine. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clés et quelques bières, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères, je suis parti voir les ours polaires. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clics et quelques bières, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères, je suis parti voir les ours polaires.
vers les ours polaires. Tim Dup sur France Inter et Thierry Lupin pour la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Lolita Rubens et Saverio Tomasella sont mes invités pour parler de l'amitié avec ce livre, Lolita Rubens, 60 questions étonnantes sur l'amitié chez Mardaga et les questions des auditeurs. Marie d'abord nous dit ceci, l'amitié c'est important pour notre système nerveux, nous sommes câblés avec les autres mammifères pour être en lien avec nos semblables. La relation, l'amitié c'est nécessaire pour notre développement, même pour notre survie. Lolita Rubens, alors du point de vue de l'évolution, il y aurait un rôle particulier à l'amitié ?
Oui, tout à fait, on sait qu'il y a effectivement plusieurs hormones qui nous poussent à aller vers les autres. L'ocytocine qui est assez connue maintenant, on sait qu'effectivement il y a certaines hormones qui nous poussent à aller vers les
autres. Sur l'attachement.
Ouais. Et il y a une des questions de l'ouvrage qui parle aussi du soutien des amis, notamment du meilleur ami. C'est une étude avec des écoliers canadiens où on a mesuré, et c'était intéressant, on a mesuré au niveau physiologique également, donc à la fois le fait de se sentir rassuré par son meilleur ami et aussi le taux de cortisol dans le corps, dans la salive en fait des enfants. Et il se trouve que quand ils vivaient des moments difficiles avec leur meilleur ami, leur taux de cortisol n'augmentait pas. Et donc, même au niveau subjectif, ils se sentaient mieux que quand ils n'avaient pas leur meilleur ami ou qu'ils avaient un parent ou un ami qui n'était pas leur meilleur ami. Donc, même au niveau physiologique, on voit bien que la présence d'un ami et notamment ici d'un meilleur ami peut vraiment aider dans les moments difficiles et même au niveau du corps.
Ouais, donc il y a un effet de bien-être et donc un effet protecteur avéré dans l'amitié, Saverio Tomasella. Et là, c'est vraiment très important aussi de resituer ça sur le plan de la physiologie.
Oui, parce que corps et âme sont complètement liés et c'est intéressant de pouvoir faire des recherches qui puissent mêler à la fois l'écoute du corps et l'écoute de la psyché, de l'âme, et de ce que la personne en dit dans sa subjectivité. Donc effectivement, oui, la présence d'une personne proche ou d'un ami proche va permettre au sujet de se sentir plus tranquille, plus détendu, plus en confiance et d'être beaucoup plus en possession de ses capacités pour faire face aux situations même difficiles.
Il y a ce message de Nelly qui nous dit ceci, mon fils a 16 ans, il est atteint du syndrome d'Asperger, il n'a pas d'amis, il dit qu'il n'en souffre pas, mais peut-on vraiment vivre sans amis, Saverio Tomasella ? Alors sur la question de l'autisme.
Je pense que c'est extrêmement difficile de vivre sans amis. C'est pour ça que certaines personnes ont besoin de s'imaginer des amitiés ou des amis, même s'il n'y en a pas vraiment dans la réalité. La question de l'autisme est une question particulièrement ardue, puisque, à part certains témoignages, nous savons peu encore ce que vivent intérieurement les personnes que nous disons autistes. Mais effectivement, on peut déjà imaginer que ces personnes sont en amitié avec leur environnement. Alors, on sait aussi par certains psychanalystes, notamment américains, que l'environnement non humain est très très important dans la relation, la constitution de l'identité de l'enfant. Mais aussi, peut-être que la personne autiste a une vision différente de l'amitié que celle que nous avons et peut se sentir en lien d'amitié avec les personnes qui s'occupent de lui.
Lolita Rubens, les amis imaginaires chez les enfants sont également très importants. Hein, c'est ce que vous montrez.
Tout à fait, oui. Il y a une étude qui a été menée sur les enfants et leurs amis imaginaires, puisqu'on sait que la plupart des enfants en fait ont un ami imaginaire, notamment aux environs de 5 ans. Et dans cette étude, on montrait que les amis imaginaires pouvaient avoir un effet bénéfique même sur les compétences, notamment linguistiques des enfants, parce que le fait de devoir parler d'une personne que personne ne voit, finalement, vous pousse à donner plus de détails, à développer peut-être votre vocabulaire et à partager quelque chose que vous êtes le seul à expérimenter. Ouais. Et donc, on se rend compte que les enfants qui ont des amis imaginaires, au-delà bien évidemment du bénéfice d'avoir un ami, avaient aussi des compétences linguistiques améliorées du fait de pouvoir discuter, notamment avec leurs parents, de cet ami que personne ne voyait.
Bon, donc Saverio Tomasella, faut encourager ses enfants à discuter, même si c'est avec un fantôme ?
Alors justement, ce n'est pas un fantôme, c'est un ami. Et pour l'enfant, l'ami imaginaire est un véritable ami. Et pendant très longtemps dans l'enfance, l'imaginaire et la réalité sont peu différenciés. Ce qui fait que pour l'enfant de 4, 5, 6, jusqu'à 8, 9, 10 ans, l'ami imaginaire est absolument un ami véritable. Et c'est l'ami sur lequel on peut vraiment compter. Celui qui ne nous contrarie pas, qui ne nous gronde pas, qui ne nous empêche pas de vivre et qui ne reprend pas nos fautes de français ou de la langue dans laquelle on parle. Et c'est justement ça aussi qui permet à l'enfant de développer son langage dans un dialogue très très libre avec l'ami imaginaire.
Alors, quels que soient les âges, il semble bien que l'humain soit toujours en quête justement d'amitié. On va écouter l'extrait d'un reportage de l'AFP TV qui a été tourné en 2009 sur des femmes entre 60 et 86 ans en Dordogne qui ont choisi de refuser la maison de retraite pour aller justement s'installer dans un lieu alternatif et écologique ou vieillir précisément dans l'amitié.
Rose a 79 ans. Son jardin est comme elle, gorgé de soleil, heureux de vivre. Avec sa sœur Geneviève, Rose habite dans une maison relativement isolée et loin de toute commodité. Mais pas question pour ces dames d'envisager la maison de retraite. Alors quand Rose et Geneviève ont entendu parler du projet de l'association L'eau Parage, elles n'ont pas hésité une seconde. Déménager pour aller s'installer avec une quinzaine de copines, en voilà un projet vivant et jeune.
Quand on voit des fois à la télé, les gens à la maison de retraite, ils sont assis, abâchis, là. Hein, on ne veut pas devenir comme ça. On fera la cuisine ensemble, et voilà, et on fera la fête ensemble. Ça, c'est bien.
Dans un an, quand les travaux seront finis, les deux sœurs habiteront ici, à Saint-Julien-de-Lampont, dans cet environnement champêtre situé à l'entrée de la commune. Avec une quinzaine d'autres personnes, de 58 à 86 ans, elles font construire une grande maison avec des logements individuels, de plein pied et accessibles aux fauteuils roulants. Il y aura aussi des espaces communs, une bibliothèque, une buanderie et une serre qui servira de lieu de rencontre. Pour Rose et Geneviève, c'est un avenir radieux qui les attend.
Voilà, il faudrait prendre des nouvelles parce que c'était en 2009, donc savoir comment ça se passe justement dans ce lieu particulier. Le Litharubens, en tout cas, une preuve supplémentaire que l'homme est bien un animal social, qu'il a besoin des autres et que c'est bon pour l'espérance de vie, comme vous le disiez tout à l'heure. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis là, on voit aussi l'intérêt à se regrouper peut-être pour créer son lieu idéal, puisque là, on entend qu'ils font construire une maison et qu'on imagine facilement que ça peut être simplifié par le fait d'être plusieurs et de pouvoir se regrouper.
Saverio Tomasella, justement, pour les personnes âgées, l'amitié est absolument nécessaire, plus que jamais.
Elle est fondamentale, elle est nécessaire, elle permet de bien vivre la vieillesse, de vivre non seulement plus longtemps, mais surtout beaucoup mieux les dernières années de la vie. Et ce qui me touche beaucoup dans ce témoignage, c'est le fait d'avoir pris une initiative pour favoriser l'amitié. Et je pense que ça pourrait servir de modèle dans beaucoup de domaines, et quel que soit l'âge, favoriser l'initiative en faveur de l'amitié.
Julie nous dit ceci, des amis, on en a très peu dans une vie, ils se comptent sur les doigts des mains, voire d'une seule main, rien à voir avec les milliers d'amis sur les réseaux sociaux. Alors l'auditeur Rubens, et évidemment, la question des amis virtuels.
Tout à fait, il y a tout un chapitre sur les réseaux, puisque, et notamment sur la question de est-ce qu'on peut avoir des milliers d'amis, notamment sur les réseaux. Donc il y avait eu le fameux nombre de Dunbar qui correspondait au nombre de personnes dans un groupe, et il y a eu une des questions effectivement de l'ouvrage qui montre que c'est pas parce qu'on est en virtuel qu'on peut avoir plus d'amis. Nos compétences cognitives liées à un cerveau qui est certes fascinant mais tout de même limité ne nous permettent pas de créer de réelles relations avec des milliers d'amis, même si on a des réseaux sociaux pour le faire. Donc effectivement, le nombre d'amis est certes limité.
Ouais. Sauf que certaines études montrent aussi que penser à ses amis, même de loin, peut avoir aussi un impact positif. Alors on se dit, tiens, imaginez avoir des milliers d'amis, ça doit être bon aussi pour le moral, non?
Oui, c'est vrai que plus on a de possibilités d'amis, plus ça peut avoir un impact positif. Mais l'amitié, et peut-être que c'est un des éléments qui est commun à l'amour, s'entretient aussi quand même. Et c'est clair que pour pouvoir entretenir des milliers d'amitiés, il faudrait des milliers d'heures et beaucoup d'énergie qu'on n'aura peut-être pas.
Saverio Tomasella, même chose, est-ce que vos patients évoquent leur relation virtuelle et est-ce que vous avez remarqué depuis quelques années l'importance que prenaient ces amis sur les réseaux sociaux ?
Alors curieusement, dans les séances, les amitiés virtuelles sont peu mentionnées, ce qui prouve bien, sauf quand il y a des difficultés à vivre ces amitiés un peu particulières, ce qui prouve bien que la véritable amitié hors Internet est plus importante tout de même pour nos contemporains que les amis, entre guillemets, qu'il est possible de se faire sur les réseaux sociaux.
Allez, on écoute The Stranglers avec Golden Brown et on se retrouve juste après pour la dernière partie de ce dossier et toujours les messages sur le site de La Tête au Carré.
Golden brown, texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Golden Brown, les Stranglers, à l'instant sur France Inter, dans cette tête au carré sur l'amitié avec Lolita Rubens et Saverio Tomasella en duplex avec nous de Nice. Archive de 1966, tiens, pour poursuivre notre discussion, une bande de copains en Bretagne à l'époque discutait de l'amitié, extraite d'une émission de l'ERTF qui s'appelait 16 millions de jeunes.
Parce qu'au départ, qu'est-ce qui vous a réuni tous les quatre, enfin, ou d'autres ensuite?
D'abord, c'est... géographiquement, si vous voulez, quoi. On habite tout près les uns des autres, quoi. Et on est obligé de se voir tous les jours, et quand on a le même âge, on a le même jeu, on a la même distraction. Et on s'est attirés les uns aux autres, quoi. On joue au cow-boy, on joue à tout ensemble, quoi. Et puis, par la suite, ça a évolué, bien entendu. On a fait tous nos premières armes ensemble. Tout s'est passé ensemble, vous voyez. On a tout fait ensemble. On a commencé à courir les filles ensemble. On a fait 400 coups ensemble. On a évolué de la même façon, si vous voulez. On a toujours été solidaires, quoi. Les femmes n'ont pas joué le même rôle que mes camarades. Les filles, quoi. C'était la distraction, comme on voit au cinéma, comme on voit au bar. Et puis après, il y avait une espèce de regroupement entre camarades, vous voyez. Puis on en discutait, on en parlait, bien ou mal.
Voilà, en 1966, voilà ce que ces jeunes gens disaient de l'amitié. On a tout fait ensemble, on était solidaires et par rapport aux copines, justement. Ça n'est pas le même rôle qu'on a joué tous ensemble. Lolita Rubin, ça, un petit commentaire, justement, sur ces liens d'amitié décrits là, à l'instant.
Bah, effectivement, quand on est avec ses amis, on peut faire plein de choses ensemble. Il y a vraiment un des aspects qui relie, je pense, les amis, c'est vraiment ces intérêts en commun. Et c'est un des éléments qui entretient aussi certainement l'amitié, de vivre les mêmes choses, de pouvoir partager les expériences communes qu'on aurait ensemble.
Alors, Saverio Tomasella, comment on les choisit, justement, nos amis? Qu'est-ce qui nous attire, au fond, vers eux?
Oui, c'est une question importante. Je voudrais d'abord rebondir sur ce beau témoignage de 1966. C'est qu'il y a des amitiés qui naissent simplement par la fréquentation. Le fait de vivre ensemble, de jouer ensemble, de grandir ensemble peut faire naître de très belles et très fortes amitiés. Sinon, je dirais qu'il y a trois façons de choisir ou de rencontrer des amis. La première façon, c'est plutôt inconsciemment d'aller vers des personnes qui ressemblent à un frère, une sœur, un père, une mère ou des personnes de la famille qui nous ont marqués. La deuxième façon d'entrer en amitié, c'est de trouver l'alter ego, la personne qui nous ressemble, qui a les mêmes goûts que nous, qui avec qui on va pouvoir partager beaucoup de choses parce qu'on a cette grande proximité. Et la troisième façon d'entrer en amitié, au contraire, c'est plutôt dans la complémentarité avec des personnes que nous admirons, qui peuvent nous servir de modèle, auxquelles nous voudrions ressembler ou qui sont tellement différentes qu'elles nous fascinent.
Ça ressemble beaucoup à l'amour finalement, oui, ce que vous nous dites là.
Alors oui, pour moi, l'amour et l'amitié sont extrêmement proches. On peut vivre des passions amicales comme on vit des passions amoureuses. On peut vivre des coups de foudre amicaux comme on vit des coups de foudre amoureux. La seule différence entre l'amitié et l'amour de ce point de vue-là, c'est que dans l'amitié, il n'y a pas de sexualité.
Oui, Héloïse nous dit, pour ma part, je suis amoureuse de quelqu'un comme je ne l'ai jamais été de personne. J'ai l'impression que dans cette relation, amitié et amour sont étroitement liés, indissociables même, Lolita Rubens.
On sait qu'effectivement, être ami avec son conjoint et donc lier amitié et amour favorise une longévité de la relation amoureuse. C'est-à-dire que d'avoir ces liens forts avec la personne avec qui l'on vit renforce en effet l'amour.
Ouais, alors sur le choix des amis, justement, un message de Christophe qui nous dit ceci. Mon ancien meilleur ami se fait des amis chaque jour, mais bien y regarder, ses amis sont ceux qui peuvent lui servir ou le valoriser. Alors ça sert aussi à ça, un ami, c'est à donner confiance en soi peut-être aussi, non?
Un ami, c'est sûr que ça nous renvoie une image de nous, et puis si c'est un ami, en général, on espère que cette image est plutôt favorable, et donc ça fait du bien aussi au moral et à l'ego de pouvoir se dire qu'on est une personne bien qui peut avoir des amis, notamment.
Saverio Tomasella.
Oui, parce que fondamentalement, nous avons besoin, et chacun de nous cherche à être vraiment accepté tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et dans l'amitié véritable, il y a cette alliance de fond, ou en tout cas cette réalité d'accepter l'autre tel qu'il est, d'essayer de le comprendre, de passer outre ses défauts, et qui font que c'est une condition très importante pour le développement de soi.
Catherine nous dit « J'ai peu d'amis, mais je l'explique aussi par ma gémellité et l'entre-soi que nous avons mis en place justement avec ma sœur jumelle ». Qui veut répondre, Lolita Rubens, là-dessus? C'est plus compliqué quand on a déjà une relation fusionnelle avec sa sœur ou son frère?
En tout cas, c'est ce qu'on disait plus tôt. C'est sûr qu'il faut, pour entretenir ses amitiés, y mettre de l'énergie. Et c'est clair que si on a certaines relations qui sont déjà très fortes, notamment au niveau de la famille, peut-être que ça peut donner moins envie d'investir dans des amis, ou en tout cas, peut-être on peut en ressentir moins le besoin. Mais peut-être que Saverio a quelque chose à ajouter.
Non, je suis assez d'accord avec vous, Lolita. Ce que je pourrais dire, c'est que d'une certaine façon, de même qu'on peut lier amitié et amour dans la relation de couple, dans certains cas de figure rares mais qui existent, il y a de véritables amitiés entre frères et sœurs. C'est-à-dire qu'au-delà de la relation familiale, il peut se développer une relation de type amical aussi dans la famille.
Frédéric nous dit « Quand j'ai constaté à 60 ans que mon mari me trompait, je me suis renfermé, n'en parlant à personne, mais lorsque j'ai osé me confier à mes amis, j'ai été conseillé, réconforté, des solutions sont arrivées, j'allais bien mieux. J'ai conservé ses amis depuis 5 ans, d'autres étaient connus depuis 15 ans. Vive l'amitié, nous dit Frédéric, Lolita Rubens.
Oui, c'est sûr que l'amitié, effectivement, ça a vraiment des effets bénéfiques en termes de soutien social, on l'a dit, sur le corps, sur notre physiologie. C'est certain que les amis sont vraiment quelque chose d'important pour les êtres sociaux que nous sommes.
Salerio Tomasella, en particulier justement dans des épisodes de vie compliqués, difficiles à affronter.
Oui, parce que je crois que l'ami est une personne qui fait preuve vraiment d'empathie, qui essaye de nous comprendre dans ce que nous sommes en train de vivre là, qui essaye de se mettre dans la même situation pour voir qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'elle ferait dans ce cas-là, et qui donc peut être de bons conseils, aider à passer un moment difficile, traverser une épreuve, et donc effectivement trouver de bonnes idées, de bonnes solutions pour au-delà de la confidence, de l'écoute et du soutien, mais aussi des solutions concrètes, en se mettant vraiment à la portée de l'ami.
Allez, un dernier extrait du film Mon meilleur ami de Patrice Lecomte autour de la trahison, cette fois-ci.
Excusez-moi de passer sans prévenir.
Non, ça nous fait plaisir, entrez.
Bonjour madame. Non, je voulais vous parler de Bruno, je suis inquiet, je n'ai plus de ses nouvelles.
Pas de non plus, vous savez, ça fait une semaine. Il est malheureux, notre Bruno.
Vous savez ce qui est arrivé? Il a été trahi par son meilleur ami.
Ah, vous êtes au courant?
Bah forcément, avec Jean-Claude, il se connaissait depuis l'école.
Jean-Claude?
Bah, c'est le fils des voisins, son ami d'enfance, son meilleur ami. Ils se quittaient jamais, ces deux-là, jusqu'au jour où... Jean-Claude, il est parti avec la femme de Bruno. Il vous l'a pas dit?
Il s'en est toujours parmi.
D'avoir perdu sa femme ou son meilleur ami?
Les deux, il leur faisait confiance. Il est tombé de haut.
Vous savez, c'est long à cicatriser, ses blessures. Il est encore fragile. Faudrait pas qu'il replonge.
Voilà, la trahison amicale, Lolita Rubens.
Bah, c'est vrai que, je disais, les amis, c'est très important et ça peut être un soutien social important et apporter des choses positives. Mais c'est vrai que ça peut aussi avoir des impacts négatifs.
Oui,
et ça dépend des amis.
Les études le prouvent. Alors,
ouais,
dans quel domaine? Comment ça peut agir négativement, justement?
Alors, il y a une étude dans l'ouvrage qui est sur l'influence des amis sur le poids. Et notamment sur le fait qu'on puisse, alors c'est une étude aux États-Unis, mais sur le fait que d'avoir des amis, notamment qui sont obèses ou qui deviennent obèses, pourrait avoir un impact sur le poids des personnes qui ont été étudiées, et pas tellement en termes de mode de vie qui serait commun aux amis, mais plutôt l'hypothèse des auteurs était plutôt que on changerait les normes qui sont associées à la perception des personnes obèses quand nos amis deviennent obèses, puisque c'est nos amis, donc c'est des personnes qu'on voit de façon positive, et que finalement ça changerait notre vision et notre représentation. Et c'est vrai que dans cette étude, on voyait que quand on avait une amitié mutuelle et que notre ami devenait obèse, les chances étaient augmentées de 171% de devenir obèse. Donc c'était pas rien.
Bon, mais ne rejetez pas vos amis pour autant.
Tout à fait.
Évidemment. Saverio Tomasella, les effets négatifs de l'amitié, c'est dommage de terminer là-dessus, mais bon, vous en voyez quelques-uns aussi ou pas?
Non, pas a priori, pas d'effet négatif de l'amitié en elle-même, mais de la relation, comme dans toute relation, il peut y avoir des éléments difficiles, toxiques.
Sur la prise de risque. Hein.
Mais ça vient plus des difficultés personnelles de l'une des deux personnes ou des deux personnes que de l'amitié elle-même, qui me semble être positive, quoi qu'il en soit.
Il y a des choses, effectivement, chez les adolescents sur la prise de risque dont vous parlez dans ce livre. 60 questions étonnantes sur l'amitié aux éditions Mardaga. Je termine avec ce message de Flore. Suite à une enfance avec une vie sociale quasi nulle, je découvre le bonheur de l'amitié à 35 ans. Je ne suis plus seul, je peux compter sur les autres, ils peuvent compter sur moi. Et ça participe à ma reconstruction morale. Vive l'amitié, dit-elle. On terminera là-dessus.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Lolita Rubens.
Merci à vous.
Et puis Saverio Tomasella. Merci aux équipes de France Bleu Azur.